Radio des Falaises, le lycée du 76 qui vous informe.
Merci à vous quatre. Maintenant, on passe à l'éco-émission.
Bienvenue dans l'éco-émission que nous avons préparé Camille, Léna, Mewen, Pénélope, Lise et Carla. Vous nous avez concocté environ 40 minutes de programme. Mais avant de commencer, dites-nous un peu pourquoi vous souhaitiez traiter le thème de l'écologie.
Alors, lorsque l'on nous a dit en début d'année quel était le thème de cette journée de diffusion radio, l'engagement, nous avons tout de suite fait le rapprochement avec l'écologie, qui est un sujet qui nous tient grandement à cœur. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire de belles paroles sur la nature que nous devons protéger ou sur le comportement que nous devons adopter. Aujourd'hui, il faut agir par des actes et cela, justement, demande de l'engagement.
D'accord, je vois. Jacob, tu veux bien commencer à présenter le programme de cette émission ?
Mais bien sûr ! Est-ce que vous savez quelle quantité de CO2 produit votre téléphone lorsqu'il utilise de la 4G ? Non ? Eh bien, Camille et Léna vous l'apprendront grâce à leurs questions informatives. Après cela, Lise et Lilith, toujours à la mode, vous parleront de deux marques éco-responsables qui ne sont pas connues de tous.
Puis un petit peu d'humour avec le billet d'humeur de Carla sur le jeu asiatique d'hiver de 2029 qui auront lieu en Arabie Saoudite. Très étonnant. Après une pause musicale, Lise reprendra la parole pour nous présenter le métier qu'elle voudra faire. Elle a d'ailleurs interviewé le directeur d'un pôle de protection d'eau, eau et biodiversité. Suite à cela, nous aurons le plaisir d'écouter les lycéens qui ont été interrogés à propos de leur consommation de viande. Mais Wen et Camille ont dû dépasser leur timidité pour aller aborder des inconnus. Enfin, cette émission s'achèvera avec la biographie de Cyril Dion que Mewen souhaitait vous présenter.
Mais sans plus attendre, passons tout de suite à la question informative de Camille et Léna.
C'est Camille et Léna et aujourd'hui, on se demande combien d'émissions de CO2 vous produisez lorsque vous utilisez votre 4G.
Huawei, Nokia, Sony, iPhone, SFR, Bouygues, Orange, Free. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Dans la vie de tous les jours, on utilise en moyenne 1,5 gigaoctets par jour à cause de la 4G.
Les personnes ayant un téléphone utilisent ces données mobiles automatiquement lorsqu'elles sortent de chez elles. Cette utilisation est-elle une bonne chose pour l'environnement ? Au moment où on utilise notre 4G, du CO2 est émis.
L'émission de CO2 est un rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Le CO2 est le deuxième gaz à effet de serre le plus important dans l'atmosphère. En 2016, la population a produit environ 11 millions de tonnes de CO2.
10% de ce CO2 est produit par le téléphone lors de la charge et de l'utilisation d'Internet. Il y a 4 grands types d'utilisation des données. Les films, les séries, la pornographie et les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou encore Instagram.
Par exemple, lorsqu'on regarde une heure de streaming par jour, on produit environ 252 grammes de CO2, ce qui est très destructeur pour l'environnement.
Pour faire fonctionner nos données, notre smartphone possède des ressources extraites et des serveurs branchés. La consommation de données est donc liée à la consommation des data centers, qui sont des centres de données informatiques qui rejettent énormément de CO2.
Pour produire moins de CO2, il faudrait changer moins régulièrement de téléphone et se limiter à une heure de streaming par jour.
La prochaine fois, nous réfléchirons à l'impact de la 5G sur l'environnement. Mais on va devoir attendre d'avoir les chiffres des premières années d'utilisation de ce réseau.
Eh bien maintenant, je ferai plus attention à enlever les données cellulaires de mon téléphone lorsque je n'en aurai plus besoin. Merci. Sinon, Lise et Lilith, j'ai vraiment hâte de découvrir les deux marques que vous allez nous présenter. J'avais justement besoin d'un t-shirt pour cet été.
Vous le savez, un problème nous concerne tous, la surconsommation. Et notamment la surconsommation des vêtements. Mais rassurez-vous, on a des solutions. La fast fashion est de plus en plus présente. C'est une industrie qui produit le plus possible de vêtements pour pouvoir en vendre le plus possible en un an. C'est donc très polluant et producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Sans compter les matières utilisées et les vêtements qui sont jetés au lieu d'être réutilisés. L'empreinte carbone du secteur de la mode est estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. En Europe, on se débarrasse chaque année de 4 millions de tonnes de textiles, mais seulement 10 à 12% sont revendus en seconde main. Cependant, des solutions existent. Il y a l'achat de seconde main, ou des marques écologiques qui essayent de respecter au maximum l'environnement. Pour vous aider à changer vos habitudes, on va vous présenter deux marques de vêtements éco-responsables, une très connue Patagonia, une marque internationale, et une moins connue Faguo, une marque française.
Patagonia est une marque californienne créée en 1973 par Yvonne Chouinard, un alpiniste qui a voulu créer sa propre marque de vêtements de sport, des vestes polaires, des sacs de couchage, des vestes imperméables, etc. Puis, la marque s'est élargie à des casquettes, des pantalons, des t-shirts. Ce sont des vêtements en matière biologique, coton biologique, chanvre, caoutchouc naturel, et en matière recyclée. La marque élabore des programmes forts de responsabilité environnementale et de bien-être animal pour ses processus de fabrication de matériaux et de produits. Elle a construit des centres de réparation dans le monde entier pour augmenter la longévité des produits qu'elle propose et réduire son empreinte carbone. En 2016, elle a donné 10 millions de dollars des ventes qu'elle a réalisées au cours du Black Friday à des organismes environnementaux dédiés à la préservation et à l'amélioration de la planète. En septembre 2022, Yvonne Chouinard a décidé de donner son entreprise à deux associations caritatives qui s'engagent dans l'environnement, Old Fast Collective et Patagonia Purpose Trust. Tout l'argent de l'entreprise sert donc à ces associations. Mais cette entreprise a encore beaucoup de progrès à faire dans certains domaines, notamment dans l'utilisation des combustibles fossiles dont elle se sert pour produire le revêtement de ses manteaux et qui contribuent au changement climatique.
Mais ce n'est pas le cas de Faguo, qui utilise de l'énergie renouvelable pour alimenter ses boutiques et ses bureaux. Située à Nantes, dans l'ouest de la France, Faguo est une marque de vêtements recyclés sur 70% des produits. Des pulls, en passant par les pantalons et même les chaussures. Le principe de cette marque est simple, un vêtement acheté, un arbre planté. Depuis sa création en 2009, plus de 2 millions d'arbres sont plantés un peu partout en France. Mais Faguo ne fait pas que ça pour l'environnement, elle évite aussi de faire les livraisons en avion ou autres transports polluants et privilégie le train. Et si ta chemise s'est déchirée, alors tu peux aller à la boutique la plus près de chez toi et ils te la réparent. C'est bien mieux que la poubelle. Comme on peut le voir, il existe de nombreuses marques engagées pour l'environnement, qui produisent respectueusement. Alors réfléchissez avant d'acheter, choisissez ces marques plutôt que des entreprises internationales qui ne respectent pas la planète et poussent à la surconsommation. Les gens rachètent des vêtements alors qu'ils n'en ont pas la nécessité.
Les marques écologiques se développent de plus en plus, mais elles sont peu connues et peu soutenues. C'est vrai qu'elles sont parfois plus chères, mais c'est une vraie solution face aux enjeux environnementaux actuels. Il faudrait donc que ces marques se démocratisent et soient plus visibles afin que plus de personnes puissent y accéder. Récemment, une loi est sortie interdisant l'élimination des textiles invendus. En effet, il est temps que les gens prennent conscience de l'impact de la surconsommation sur la planète.
C'est vraiment des super initiatives. Je ne connaissais pas du tout. Eh bien moi qui ne sais pas coudre, je vais me renseigner pour mettre mon vieux jean à réparer. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter « Il est où le SAV » de Suza.
Sur ce même cactus, depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
La planète à la tête dans ce chauffeur. Je me dis parfois de toute façon il est trop. Nous sommes nous face à l'euro, le dollar. Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Mais je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mes numéros et dévis sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, Carla ?
Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de sport et plus précisément des jeux asiatiques d'hiver, même si, on est d'accord, ces deux mots si proches l'un de l'autre sonnent un peu comme de l'eau avec de l'huile, en bref, comme deux choses qui ne se mélangent pas. Eh bien oui, parce que l'Arabie Saoudite s'est généreusement portée volontaire pour accueillir les jeux asiatiques d'hiver de 2029 dans une ville, Trojena, qui n'existe pas. Du moins pas encore. Le Conseil Olympique Asiatique, le COA, a donné son accord pour mettre une boule de glace dans un micro-ondes où la température annuelle moyenne est de 25 degrés et où même en décembre, le climat dépasse celui d'une canicule en Bretagne. Je rigole. Je ne veux pas avoir de problème avec les Bretons. Cette ville, Trojena, va sortir de terre, ou plutôt de sable, alors même qu'en 2020, les pneus des motos et des voitures du Dakar foulaient les déserts saoudiens. Mohamed Ben Salam veut construire cette ville futuriste plus longue que le Vatican, mais moins que l'absurdité de ce projet, puisqu'en effet, elle mesurera, accrochez-vous bien, 170 km de long. Cette ville se veut écologique et respectueuse de l'environnement, contrairement aux mégapoles actuelles qui ont ruiné le paysage. C'est une véritable oasis de modernité et de technologie qui vient s'implanter dans des déserts accessoirement peuplés d'animaux sauvages qui n'ont pas plus que vous et moi demandé à voir de la neige artificielle tomber d'un ciel sans nuages, ou plutôt de canons à neige à qui il faut, rappelons-le, 25 000 kWh pour enneiger un hectare de piste pendant un hiver. Toujours dans un respect exemplaire de l'environnement. Mais bon, après tout, la joie du sport ne doit pas être remise en question par la politique ou une quelconque éthique, comme l'ont regretté certains dirigeants lors de la Coupe du Monde de foot de 2022. Seulement, les limites de ce qui est acceptable atteignent leur paroxysme et les premières consciences ébranlées par ceux que certains qualifient de désastres écologiques sont, bien évidemment, les sportifs. Et c'est là que nous rejoignons le thème de cette émission radio, l'engagement. La vie des athlètes, organisée par les entraînements, tourne autour d'une réussite qu'ils peuvent notamment atteindre lors de ce genre de compétition. Alors comment leur dire de ne pas participer à des événements qui sont le moment où tous leurs efforts peuvent payer, pendant que nous nous permettons de juger le mérite de ces challenges sportifs, alors que le sport le plus difficile que nous pratiquons, c'est pas le karaté mais le canapé. Seulement, aujourd'hui, les choses ne peuvent plus se passer sans que l'on y porte un regard critique. Et la participation des sportifs est un véritable engagement. Leur demander de ne pas y aller, c'est comme demander à Manu d'écouter les députés alors qu'il peut utiliser le 49-3. Nous savons tous, maintenant, à chacun de faire son choix.
En effet, je me vois mal m'entraîner pendant 4 ans pour ne pas participer à la compétition où il faut être. Mais c'est vrai que cela est discutable en vue des circonstances. On pourrait en parler pendant des heures, animer un débat même.
Mais tout de suite, sans plus attendre, je passe la parole à Lise qui va nous faire découvrir le métier de chargée de mission.
Je voudrais être chargée de mission en biodiversité dans un parc naturel, un métier dont je vais vous parler tout de suite. Le chargé de mission en biodiversité crée tout type de projet pour protéger cette biodiversité qui est l'ensemble des êtres vivants, donc les végétaux et les animaux. C'est important de la protéger car elle joue un rôle déterminant dans l'avenir de l'humanité. Les végétaux produisent l'oxygène que nous respirons et purifient l'air en captant certains polluants. Le chargé de mission peut, par exemple, trouver des solutions pour qu'un projet de construction respecte la charte du parc pour lequel il travaille. La charte du parc est le contrat qui contractualise le projet de protection et de développement durable élaboré pour son territoire. Les études à faire pour pouvoir exercer ce métier sont un master ou une école d'ingénieurs spécialisée dans l'environnement. Le salaire est d'environ 2300 euros brut par mois en début de carrière. Je suis allée à la maison du parc des Boucles de la Seine, Normande, et j'ai interviewé Florian Rosanska, un ancien chargé de mission en biodiversité, poissons et rivières, qui maintenant est responsable du pôle eau et biodiversité.
Bonjour Florian Rosanska, je vais vous poser des questions sur le métier de chargé de mission en biodiversité. Ma première question, pourquoi protéger la biodiversité ?
Alors c'est une question qui est assez large, parce que protéger la biodiversité, en fait, il y a plein de bonnes raisons de la protéger. Donc, faut savoir déjà que l'homme fait partie intégrante de la biodiversité, c'est une espèce parmi tant d'autres, et que la biodiversité, du coup, répond à des besoins aussi pour l'homme. Donc, typiquement, les zones humides permettent de purifier l'eau qui peut être salie par des activités humaines. Les tourbières permettent de, ou les forêts permettent de capter de la matière organique, du carbone, et diminuer le taux de carbone dans l'air, et donc de participer, de limiter le réchauffement climatique. Donc, au-delà de la protection de certaines espèces sensibles, intéressantes, des espèces phares connues par le grand public, de manière globale, les habitats et les écosystèmes sont en équilibre, et il faut aussi veiller à préserver ces équilibres.
Quels exemples de projets faisiez-vous pour protéger la biodiversité ?
Alors, au niveau du parc, donc, on a plusieurs actions pour la protection de la biodiversité. La première, c'est déjà le suivi, les inventaires des différentes espèces présentes sur notre territoire. Donc, au-delà de connaître ces espèces, ça permet de connaître l'état des populations de ces espèces et de connaître également l'état des milieux dans lesquels ils vivent. Donc, on fait des comptages d'oiseaux, on fait des inventaires d'invertébrés, des inventaires piscicoles, des inventaires de poissons. Donc, tout ça, ça permet de voir justement si ces espèces vont bien, comme je le disais, et puis si leur milieu de vie se porte bien également. Typiquement, donc, lorsqu'on fait un inventaire piscicole, on fait un inventaire des poissons dans un cours d'eau, les espèces qu'on va y retrouver vont permettre de savoir si le cours d'eau est en bon état ou si le cours d'eau est un peu pollué. S'il est pollué par des rejets humains, la station d'épuration marche mal, ou s'il y a des rejets agricoles, de forts limons qui viennent du bassin versant, qui viennent colmater les cailloux dans la rivière, etc. etc. Donc, voilà, les suivis permettent voilà, de donner des informations sur l'état des milieux et des espèces. Un autre pôle d'action, c'est des projets de restauration, c'est des actions sur le terrain, des travaux. Donc, on va regarder un petit peu le cycle biologique des espèces et on va intervenir justement pour essayer de restaurer, pour essayer de faire que l'espèce puisse accomplir l'ensemble de son cycle biologique. Donc, typiquement, pour tout ce qui est mammifères, amphibiens, même tout ce qui est invertébrés, on va créer des corridors, restaurer des corridors. Donc, ça peut être des haies, ça peut être restaurer des mares, ou, à contrario, lorsqu'on voit qu'il y a un obstacle pour ces espèces, pour leur déplacement ou autre, on va essayer d'intervenir pour essayer de supprimer cet obstacle. Si on en revient sur les poissons, lorsque on a un barrage et qu'on a un poisson tel que le saumon qui veulent remonter le cours d'eau pour se reproduire tout en haut du cours d'eau, on va intervenir sous l'ouvrage pour faire de telle sorte que le poisson puisse remonter. Soit en supprimant l'ouvrage s'il n'a pas d'usage aujourd'hui, soit en mettant en place un système qui permet au poisson de franchir l'ouvrage et de continuer son chemin. Donc voilà un petit peu l'exemple de projet qu'on peut mener pour essayer de préserver la biodiversité.
Qu'est-ce que vous faisiez concrètement durant vos journées lorsque vous étiez chargé de mission ?
Alors, généralement, alors je ne vais pas parler d'une journée type, mais plutôt du temps consacré sur l'ensemble des différents postes. Sur une année, grosso modo, j'ai à peu près 60 à 70% de mon temps qui est au bureau, qui est lié au fait de faire à la fois donc, des rapports. Des bilans suite à différents inventaires ou autres, à également construire des projets, que ce soit construire techniquement, rédiger le projet pour le partager, faire les dossiers réglementaires, des dossiers de subvention pour accomplir ces projets, etc. Et puis forcément, il y a également une petite partie de 10-20% du temps liée aux réunions, justement, réunions que ce soit en interne, avec d'autres collègues sur d'autres thématiques pour bien croiser les enjeux, et également faire ces réunions-là avec les autres partenaires, les élus, les usagers, tels que les agriculteurs ou autres. Donc voilà, et puis il reste un petit peu de temps, 10-20% du temps également pour le terrain. Donc que ce soit les suivis ou procéder à des, à des caractérisations, à caractérisation du projet ou autre, donc à des états initiaux à faire, etc. Voilà, voilà grosso modo un petit peu la répartition du temps, mais on pense beaucoup, enfin on pense souvent que les gens qui travaillent dans la biodiversité passent beaucoup de temps sur le terrain. Bon, après, il y a quand même généralement un bon mi-temps qui est quand même fait en bureau pour toutes ces raisons-là.
Pourquoi est-ce que vous vouliez faire ce métier ?
Bah comme beaucoup de métiers à l'environnement, ou même métiers en général, moi quand j'étais petit, mon papa et mon papy m'emmenaient beaucoup à la pêche. Donc forcément, être dans les milieux naturels, croiser du coup des espèces de poissons, ça m'a bien plu. Et puis lorsqu'on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, mon orientation, bah, j'ai dit que je voulais travailler dans l'environnement. Donc après, j'ai pris le bac, j'ai fait un DUT, donc aujourd'hui on appelle ça un BUT, je crois, une licence, et puis après un master en gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau, pour arriver après quelques expériences professionnelles dans des fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques, arriver au parc naturel régional des Bouts de la Seine-Normande, en tant que chargé de mission rivière et poissons. Donc j'ai exercé durant 10-12 ans, et récemment, du coup, j'ai changer de poste pour être responsable du pôle eau et biodiversité, pour chapeauter un petit peu l'ensemble des projets en lien avec ces deux thématiques-là.
D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Moi, je souhaite m'engager dans ce métier pour agir sur la protection de la biodiversité, pour que les animaux se sentent mieux malgré notre dénomination, que l'on ait moins d'impact sur eux, car les animaux, ce que nous sommes aussi, ont une sensibilité, ils ressentent des choses. Ce n'est donc pas que pour préserver les espèces que je veux protéger les animaux, ni pour l'intérêt des humains, mais pour leur intérêt à eux, pour leur bien. Donc, les autres animaux, autant que les humains, méritent aussi de vivre pour eux, et non pas pour qu'on les utilise, les mange, ou même qu'on les observe. Je parle des animaux sauvages alors qu'ils font leur vie. On devrait donc les respecter, ce qui n'est pas du tout le cas. Les animaux ne devraient pas être au service des humains. On devrait se mettre sur le même pied d'égalité qu'eux et prendre en compte l'individu et non l'espèce. En fait, ce qui se passe, c'est que l'on est égoïste envers les autres, et comme les animaux ne peuvent pas nous dire ce qu'ils ressentent envers nous, on continue et peu de personnes s'en rendent compte, ou sinon, elles ne font pas grand-chose. Mais maintenant qu'on en est arrivé à cette situation, ce n'est pas possible d'en rester là. On peut encore changer des choses. Et moi, en faisant le métier de chargé de mission, je souhaiterais améliorer le bien-être des animaux et diminuer notre impact sur eux. En fait, je pense que je créerai les mêmes projets que les autres chargés de mission, mais que je n'aurai pas le même but.
C'est un métier avec de grandes responsabilités. Je suis sûre que cela t'ira très bien.
Maintenant, écoutons sans plus attendre les lycéens interrogés par Camille et Mewen pour leur micro-trottoir à propos de la consommation de viande.
Est-ce que tu penses que manger moins de viande serait bénéfique pour la planète ?
Je sais pas.
Oui, je pense. C'est mieux pour les animaux, même si à l'échelle mondiale, ce sera impossible de faire arrêter tout le monde de manger de la viande. Mais oui, ce serait bénéfique plutôt pour la planète.
Ben oui, évidemment, je pense que c'est indiscutable, hein, et surtout à cause de l'élevage intensif. Après, est-ce que c'est vraiment manger moins de viande ou arrêter d'élever des animaux de façon intensive pour manger trop de viande ?
Est-ce que vous pensez que manger moins de viande, ça serait bénéfique pour la planète ?
Ça dépend. L'humain a été créé omnivore, ce qui fait qu'il est normal de manger de la viande. Pendant une surconsommation de viande, évidemment, ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas bénéfique pour l'environnement, ça c'est sûr. Voilà.
Moi, je pense que manger de la volaille locale, ça n'abîme pas trop la planète, mais manger du veau ou manger du bœuf, qui sont des viandes qui consomment beaucoup plus de carburant et de CO2, je pense que oui, ça pollue plus ces viandes.
Bah, je suis assez mitigée sur le sujet parce que, en soi, si on mangeait un peu moins de viande, ça, il y aurait un peu plus d'animaux et du coup, la planète se porterait un peu mieux. Sauf que si on arrête de manger de la viande, on aura quand même des lacunes. Parce que on a quand même, notre intelligence est venue avec ça. Du coup, sinon, on ne pourrait pas vivre. Enfin, voilà.
Ça dépend. Je pense que si individuellement, ça ne change pas grand-chose. Mais si tout le monde s'y met, ça peut avoir un impact.
Je pense que ça réduirait la disparition d'animaux, enfin d'espèces. Mais... Voilà.
Je pense que ça serait meilleur pour la biodiversité, pour le monde, de manger moins de viande parce que ça serait meilleur pour l'écologie, etc. Ouais.
Moi, je pense que manger moins de viande, c'est mieux car il y aurait moins de monde à Buffalo.
Bah, je pense que c'est mieux pour la planète parce que ça peut améliorer la biodiversité de la planète.
Bah, moi, je pense puisque manger moins de viande, ça polluerait moins. Parce que, par exemple, si on mange moins de vaches, ça produit moins de CO2 puisqu'on élève moins.
Je trouve, oui. Moi, je dirais qu'il faudrait manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Mais
Moi, je suis plutôt mitigé parce que la nature, c'est bien, mais la viande aussi.
Moi, je dirais oui d'un côté, parce qu'après, par exemple, les vaches, ça pollue beaucoup. Et quand on fait un élevage intensif en vaches, du coup, on produit beaucoup de pollution. Alors, pourquoi pas se rabattre sur la nourriture, par exemple, les insectes, pour plus de protéines? C'est équivalent, donc merci.
Personnellement, j'adore la viande, donc je pense pas que j'arrêterai d'en manger. Après, peut-être ça a un impact sur l'environnement et tout.
Oui, j'estime que c'est bénéfique parce que malgré tout, ça a quand même un énorme impact. Et pour les animaux, c'est compliqué pour la reproduction, tout ça. Après, ce serait mieux de moins en manger ou du moins de revoir... comment on les tue, tout ça.
Alors, manger moins de viande serait bénéfique pour la planète, oui, c'était une évidence, mais, il y a le mais, c'est que malgré tout, l'élevage permet de maintenir une biodiversité dans certaines prairies naturelles, par exemple en France. Hein. Donc, on aurait besoin, je dirais, de plus d'élevage extensif, c'est-à-dire naturel, entre guillemets, que d'élevage intensif.
Oui, évidemment, il y a un problème environnemental avec la consommation de viande, qui est d'une part les émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part la consommation de terre pour cultiver des cultures qui ne sont pas destinées à l'alimentation humaine, mais à l'alimentation animale. Ceci dit, certaines terres ne sont utilisables que pour l'alimentation animale, et non pas pour l'alimentation humaine, donc on ne peut pas simplement dire qu'il faut remplacer les terres cultivées pour l'animal par des terres cultivées pour l'homme.
Oui, ça peut me permettre de diversifier la consommation alimentaire.
Non, parce que sinon il y aurait trop d'animaux et l'humain serait en manque de fer.
Oui, manger moins de viande serait beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup trop d'animaux qui meurent chaque année. Manger peu de viande serait mieux pour nous et pour les animaux. Et déjà, manger moins de viande, ce serait un progrès, donc ça résoudrait déjà un problème.
Bonjour, c'est Mewen et Camille. Vous venez d'entendre les lycéens que nous avons interrogés, mais pourquoi ce sujet? Savez-vous qu'en 2021, 80 ou 90 kg de viande sont consommés par an? Environ 5 milliards d'animaux sont abattus dans le monde chaque année et plus de 2 millions en France.
Les principaux facteurs qui incitent les Français à réduire leur consommation de viande est la volonté de protéger leur santé, la préoccupation du bien-être animal, le prix coûteux de la viande et le facteur environnemental. Bien sûr, beaucoup d'émissions de CO2 sont produites. 5,5% de CO2 est produit par l'élevage. Cela montre l'impact qu'a l'exagération de la consommation de viande.
Cela entraîne beaucoup de choses comme le transport des animaux, le transport de la viande et l'élevage intensif. Environ 150 grammes de viande est conseillé par les médecins, ce qui représente 1,5 steak haché.
Merci beaucoup les filles pour ces informations et bravo encore d'avoir eu le courage d'aller interviewer des inconnus. Mais dites-moi, vous en connaissez déjà, non?
Oui.
Moi. Bon, je ne vous embête pas plus. Mais Wen, c'est à toi.
Vous avez sans doute reconnu ce titre planétaire que nous a offert la reine du Québec en 1995. Aujourd'hui, on ne va pas vous en parler puisque tout le monde la connaît déjà. En revanche, il y a un autre dion dont on aimerait vous parler. Il ne s'agit ni du frère ni du père. Non, lui, c'est quelqu'un à qui on souhaite de connaître un succès aussi important que la grande Céline Dion. Pour tous ses textes, poèmes, films et documentaires, Cyril Dion, dont il s'agit, mérite amplement d'être connu de vous qui nous écoutez aujourd'hui. Il est donc né en 1978. Et bien sûr, avant de devenir réalisateur de films, il est passé par plusieurs métiers. Aujourd'hui, on veut vous parler de ses projets récents qui sont surtout des films tels que Demain, qui est sorti en 2015. Cela raconte l'histoire de Cyril Dion, Mélanie Laurent, la co-réalisatrice, et leur équipe de réalisation durant leur périple autour du monde, où ils découvrent de nouvelles organisations sociales et plein d'autres choses. Son film Animal est sorti en 2021. Il parle de Bella et Vipulan, deux jeunes adolescentes de 16 ans qui sont sûres que leur avenir est en danger à cause du changement climatique et de l'extinction des espèces. Ils décident donc de remonter à la source du problème qui est notre relation au monde vivant. Cyril a aussi sorti récemment sa série de 3 épisodes disponibles sur Arte qui se nomme Un monde nouveau. Ils sont sortis en 2022 et racontent le parcours de Cyril Dion autour du monde, à la rencontre d'acteurs qui ont révolutionné une région, un pays ou une activité et créé un nouveau récit, celui d'un monde plus juste et plus écologique. Au final, Cyril Dion, c'est cette éloquente poésie qui vient délicatement ébranler nos consciences sans pour autant nous faire culpabiliser. Après avoir écouté une de ses conférences, on n'éteint pas son écran désespéré par tous ces faits accablants, mais au contraire, il apporte comme une lueur d'espoir et d'optimisme que l'on retrouve très bien dans chacun de ses projets. Ses films sont faits avec une vérité et une simplicité qui les rendent accessibles à tous les publics, donc regardez-les, ne serait-ce que pour prendre conscience des problèmes écologiques auxquels nous devons faire face.
J'irai voir un épisode de son documentaire sur Arte alors. Il a l'air super ce Cyril. Merci Mewen et merci à vous toutes pour cette émission de qualité.
Concluez cette émission par une petite pause musicale avec Assassin, l'écologie, sauvons la planète.
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit. Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise. Et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Raser des forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays. Disparition d'espèces animales et l'occulte de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme de croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt l'échec sur la planète, sur la planète, sur la planète. Laissez-vous tous les déchets dans l'atmosphère.